Dominique Grezin, vous êtes le responsable de la création d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Le Bas Vénitien. Et une nouvelle maison d'édition, c'est quand même toujours une sorte d'événement qui peut sembler étonnant dans une époque où le livre électronique ou Internet semble supplanter le bon vieux livre. Alors, première question, quelle est votre approche par rapport à cette problématique-là ?
Alors notre approche, c'est que dès l'instant où on avait envie, quand je dis envie, c'est quelque chose de fort, de créer cette maison, pour qu'elle existe, il fallait qu'elle soit présente sur le domaine de base d'un éditeur, c'est-à-dire la librairie, le circuit de diffusion traditionnel. C'est-à-dire, je pense que l'édition numérique a certainement un avenir, malheureusement pour les libraires, heureusement peut-être pour d'autres gens qui vont s'en trouver très bien. Peut-être qu'il faut que les libraires se reconvertissent aussi, se réadaptent à une nouvelle situation. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on peut pas, on peut pas éditer aujourd'hui des bouquins en visant le web, en visant Internet en tant que tel. La reconnaissance passe par, il y a du papier, il y a un objet, il y a un journaliste qui accroche sur un bouquin papier, et encore dans le circuit traditionnel. Donc pour nous, il n'était pas question de démarrer si on n'avait pas tout ça d'abord, c'est-à-dire le diffuseur, le distributeur et la construction de ce réseau.
Alors, on a rencontré et interviewé une romancière que vous publiez. Donc, vous publiez le premier roman, Maureen Pitts, pour le goût du rat, qui est un roman assez sidérant, époustouflant. J'aimerais qu'à partir de là, de ce roman-là, vous nous racontiez comment il est venu sur votre bureau d'éditeur et comment vous travaillez comme éditeur.
Alors, d'abord c'est vrai que c'est un roman qu'on adore. Je ne peux pas parler seulement de moi, puisqu'on est une coopérative, donc on travaille en équipe, et qu'on a tous adoré de façon unanime. Et ce qui est intéressant avec Le Goût du Rat, c'est que c'est le premier roman qui nous est arrivé avec la structure, la méthode, le processus qu'on a mis en place et qui est tout à fait particulier. C'est-à-dire que tous les romans qui ont été publiés avant, il y en a eu 4 précédemment, étaient des romans qu'on a détectés par réseau. Alors, soit tout simplement parmi les membres de la coopérative, soit par réseau direct, indirect, N+1, N+2, etc. Et puis, quand je parle de méthode et du processus que nous on a mis en place, c'est tout repose sur un site web. C'est-à-dire que les auteurs peuvent s'inscrire sur ce site et puis déposer. On ne parle pas du processus si vous avez envie qu'on en parle.
Mais... Non, j'aimerais bien que vous nous racontiez parce que c'est quand même.
c'est particulier, oui, c'est sûr. Il y a plusieurs étapes. L'inscription de l'auteur. À vrai dire, avec 4 informations, suffit pour qu'il s'inscrive. On n'est pas intrusif, on ne lui demande pas des détails sur sa vie privée. Donc 4 informations, c'est un nom, une commune et un mail, et voilà, ça s'arrête à ce niveau-là. Et puis à partir de ça, il a la possibilité pratique de déposer un dossier. Un dossier, c'est, si je simplifie, une page de synopsis, une page de note d'intention, une page d'extrait. Voilà. On ne demande pas plus. Pourquoi ? Parce que n'importe quel éditeur n'est à même de lire les manuscrits qu'il reçoit. C'est quand même un truc de base, et dans un pays, dans un monde où l'édition existe depuis Gutenberg, ça devait être au 14e siècle, je crois, ou au 15e siècle, enfin en tout cas il y a plus de 500 ans, c'est quand même étonnant qu'on soit... on n'a peut-être pas les moyens techniques pour le régler, ce problème-là, auparavant. Maintenant, on les a. Voilà.
C'est-à-dire... Ce qui veut dire que lorsque vous recevez une note, un dossier comme celui-là, le livre n'est pas nécessairement écrit.
Ben à la limite, on n'en sait rien. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de recevoir un dossier. Le comité éditorial a demandé le manuscrit et l'auteur envoie 40 pages. Il dit ben non, on veut le manuscrit complet maintenant. Ah oui, mais j'ai vu quelques... Non, c'est le manuscrit complet. Voilà. Donc en fait, il nous a un petit peu roulé. Mais c'est de bonne guerre.
Pour bien préciser, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés à s'inscrire sur votre site, c'est qu'on sache bien que vous ne travaillez pas sur base de projets... de romans qui ne seraient pas écrits.
Non, à la base, la logique est quand même que le roman soit écrit. Je pense que c'est l'intérêt de l'auteur, tout simplement. Parce que je pense qu'un auteur n'a pas pas la même vision de son œuvre quand il est à un stade où il est en projet, où il a écrit 10 pages, et quand il a terminé, qu'il a mis un point final et qu'il a relu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 25 fois son bouquin et qu'il est mûr. Voilà. Donc je pense que c'est son intérêt de toute façon. Après, il y a une grande discussion autour de ça. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'un livre, c'est d'abord un projet? Est-ce qu'un livre, c'est d'abord une écriture? C'est une grande discussion, et il est certain que nous, on va être capable de détecter des livres qui sont formidables, que les autres éditeurs qui travaillent avec des méthodes classiques auront peut-être du mal à trouver. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que la preuve, c'est qu'on demande plein de dossiers. Enfin, pardon, on reçoit plein de dossiers pour lesquels on demande un manuscrit. Et puis le manuscrit, les gens arrivent au comité éditorial et je suis extrêmement déçu. C'est pas du tout ce que j'avais compris. Ça marche pas. C'est-à-dire que, et mon avis à moi, c'est très simple. C'est dans un livre, il y a les deux. Même si le projet peut être, et ça nous est arrivé, le projet peut être, mais je n'avais pas de projet au départ. J'ai commencé à prendre des notes de ceci, de cela. Tiens, et puis je me suis rendu compte que ça convergeait. Par exemple, sur l'homme qui voulait marcher sur l'horizon, c'était exactement le discours de l'auteur. Ce qui prouve bien qu'on n'a pas réduit notre champ. Ah, il n'y a pas de projet d'écriture, donc on ne comprend pas. Non, on a senti qu'à travers l'extrait, à travers sa démarche d'écriture, même si ce n'était pas quelque chose de programmé initialement, il y avait quelque chose de fort et que ça méritait qu'on s'y intéresse.
Voilà. On est bien d'accord qu'on parle de littérature, on ne parle pas d'essai ou de... Parce que c'est vrai qu'un projet peut oui. être convaincant pour un essai qui demande des recherches.
Absolument, je ne parlais que de littérature.
Que littérature.
Absolument.
Ah, bon, bien. Alors, vous avez dit que vous étiez une coopérative. Alors, c'est un mode de fonctionnement que vous avez choisi pour quelles raisons ?
Évidemment, je peux dire qu'il y a deux types de raisons. Premièrement, c'est un choix, le fait d'être en coopérative, c'est un choix en faveur de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est un choix qui va dans le sens de est-ce qu'il n'y a pas à chercher du côté du fonctionnement de la société, du côté du fonctionnement des entreprises, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de travailler de façon plus collégiale, plus collective, et peut-être avec un petit peu moins de priorité à l'argent et un petit peu plus de priorité au fond. Voilà, donc c'est d'abord un choix dans ce sens-là, c'est très clair. Et puis le deuxième choix, c'est que c'est quelque chose de très concret, enfin qu'on a mis en place, aussi parce que l'idée de cette coopérative est née de bouquins existants, de gens qui, alors effectivement, n'arrivaient pas à les publier, même s'ils avaient parfois plein de touches et parfois des éditions qui ont été lancées et qui ont été arrêtées. Voilà. Mais c'était dire, mais donc c'est intéressant de faire quelque chose là-dessus, et pour ça la coopérative et la forme de coopérative qu'on a choisie, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, s'est révélée parfaitement adaptée à ce fonctionnement-là. Il y a des salariés, il y a des bénéficiaires de la coopérative qui sont les auteurs, il y a des bénévoles, et parmi des bénévoles, il y a des gens qui ont un rôle très important, qui sont des lecteurs du comité éditorial. Donc, ils sont bénévoles parce que le seul bénéfice qu'ils trouvent d'abord, c'est de découvrir des textes merveilleux, comme celui de Maureen. Et puis le second bénéfice, c'est qu'ils ont quand même, chaque bouquin qui est paru, c'est le minimum, c'est qu'on les récompense de cette façon-là. Ça serait...
Alors, vous avez parlé de cinq romans, donc quatre publiés avant le goût du rat de Maureen Pitt.
Et un sixième depuis.
Et il y en a un sixième depuis. Alors, ce sont des romans qui tous sont passés donc par ce processus-là.
Absolument. Absolument. Alors, je vais vous faire une confidence, c'est que je fais partie des auteurs de la coopérative et que j'ai un bouquin qui a été retenu par la coopérative. Et moi, j'étais parti pour m'affranchir un petit peu des règles en me disant « Oui, mais moi, je suis en coopérative, donc voilà, on va lire mon manuscrit directement. » Et je me suis fait rabrouer par mes camarades du comité éditorial, puisque je n'en fais pas partie, bien entendu, et qui m'ont dit « Non, à la queue comme tout le monde.
» Enfin, vous êtes quand même bien placé, c'est dit, pour être publié par vous-même, en quelque sorte.
C'est un peu curieux. Absolument, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un de la coopérative qui a présenté un roman qui a été refusé. Et qu'on tient à une indépendance complète de trois choses. D'abord, l'auteur, Par exemple, en tant qu'auteur, je ne suis pas éditeur de mon bouquin. Donc l'auteur, c'est quelque chose qui soit de la coopérative ou pas de la coopérative, il a le même traitement. Le comité éditorial est totalement indépendant. Et quand il faut le rappeler, je me permets de le rappeler aux membres du comité, ils n'ont qu'un seul critère à prendre en compte pour retenir un dossier puis un manuscrit dans un second temps, c'est la qualité. Alors la qualité se décline, il y a un schéma de fiche descriptive qui est entre les mains des gens du comité, qui respectent. Mais cette qualité peut se décliner à travers différents critères, mais c'est le seul argument. Lorsque j'entends quelqu'un du comité dire « Oui, mais est-ce qu'on va trouver un lectorat ? Oui, mais est-ce que ça va se vendre ? Oui, mais est-ce que c'est... Attendez, il y a 7 tomes, c'est trop cher, etc. » Je dis « Excusez-moi, ça c'est un autre problème. Là, c'est moi en tant que gérant qui vais parler de ces questions-là. Vous, en tant que comité, vous n'avez pas à rentrer dedans. Vous n'avez pas à rentrer dedans, c'est « Est-ce que ce bouquin doit... » Est-ce qu'il y a une urgence à ce que cet objet d'art qu'est le livre soit entre les mains des lecteurs ou pas ? Si vous ressentez cette urgence, il faut publier. Après, je pourrais dire, sur le plan économique, sur le plan du calendrier et des relations entre les différentes parutions, etc., etc., on peut faire, on ne peut pas faire. Voilà. Mais c'est une troisième étape.
Alors pour le moment, avec ces 6 romans, vous avez une seule collection. Est-ce que vous envisagez d'ouvrir à d'autres collections, je sais pas, à des nouvelles ou à d'autres types de à décliner, à donner une sorte de ligne éditoriale peut-être spécifique au Bavénitien?
Absolument. Alors il y a déjà une ligne éditoriale qu'on peut consulter sur notre site, mais c'est vrai que dans un premier temps, on s'intéressait, si vous voulez, notre objectif, c'était s'intéresser à ces 10% ou 1% de livres qui sont de grandes qualité, qui ne trouve pas le chemin de l'édition. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10% ou 1%, je suis très gentil, de livres qui sont, eux, édités, non pas à cause de leur qualité, mais qui sont édités en fonction d'un marché ou en fonction du nom qu'il y a sur la couverture. Voilà. Je m'empresse de dire que j'ai un immense respect pour beaucoup de grands éditeurs francophones. Voilà, je veux dire, on se pose, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on innove, sur lesquelles on apporte, je pense, quelque chose de nouveau dans l'édition, mais je me prosterne devant Gallimard ou devant L'Olivier ou devant POL ou Actes Sud. Je trouve qu'ils font des tas de choses merveilleuses et que nous, on est là parce que il manquait peut-être quelque chose qu'on va essayer d'apporter. Je crois que j'ai oublié votre question en route.
Oui, la question c'est, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale ? Est-ce que vous allez publier d'autres choses que des romans ? Est-ce que, comme il y a différentes collections, vous parlez de Gallimard, il y a différentes collections ou Actes Sud ?
Donc actuellement, disons que la collection qui existe, qui est la seule existante aujourd'hui, est très précise, c'est romanesque, francophone, contemporain. Le romanesque peut inclure du conte, de la nouvelle, du récit, d'ailleurs c'est déjà le cas, déjà pour un bouquin paru, un récit, et pour un bouquin à paraître en octobre, un recueil de nouvelles. Voilà. Donc c'est le romanesque plus que le roman. Et puis, par ailleurs, pour diverses raisons, effectivement, on projette de se diversifier. Et je peux dire 3 mots, pas plus, parce que c'est pas des choses qui sont totalement bouclées, c'est pas totalement terminé. Enfin, on est en travail là-dessus, disons en perspective de novembre-décembre. On est en train d'imaginer une collection de beaux livres. Et si je dis beaux livres, il faut que je précise tout de suite, beaux livres pas chers. C'est-à-dire, beaux livres, je peux même dire un chiffre pour que ça soit clair. On va essayer de sortir de très beaux livres entre 25 et 30 euros. Donc des formats qui sont des formats moyens en tant que beaux livres, sur une idée qui prolonge complètement notre ligne d'enrichissement, qui est les grandes aventures culturelles. C'est-à-dire des expériences de groupes de gens qui ont inventé quelque chose, qui ont changé le monde, qui ont fait, à partir parfois de rien, des choses merveilleuses qui nous font rêver, donnent du sens à notre vie. Voilà, c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière.
Donc ça, c'est une des nouvelles lignes éditoriales. Alors les deux autres, si vous pouvez en parler, enfin, si c'est trop tôt.
Alors les deux autres, il y a d'abord un petit aménagement, enfin un aménagement, façon de parler, dans la collection actuelle, qui va peut-être trouver un nom au mois de septembre, mais j'attends d'avoir l'aval de mes camarades pour pouvoir le publier. D'abord, on va maintenant se permettre de faire appel à des auteurs confirmés. Voilà. Et donc là aussi, on a des choses en route avec de grands écrivains. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que notre projet, je crois totalement à ce projet. Je veux dire, tous les romans qu'on a publiés jusqu'à maintenant sont des premiers romans. Et pour moi, de grands romans, alors on peut dire que celui-là a telle qualité, celui-là a telle qualité, celui-là a telle autre. Je pense que dans notre ligne éditoriale, il y a une chose qui est très importante, c'est la diversité, à tout point de vue. Qu'elle soit ethnique, on a un roman d'un Syrien, on a un roman sénégalais, on a un roman bruxellois. Donc la diversité fait partie de... Et la diversité littéraire tout autant. Et c'est, je veux dire... Quand on me dit, mais il y a quoi de commun entre les 6 bouquins que vous avez publiés jusqu'à maintenant ? Mais ce qu'il y a de commun, c'est qu'ils sont tous hors du commun. C'est que s'ils avaient eu du mal à trouver le chemin de l'édition traditionnelle, c'est parce qu'ils ne rentrent pas dans des boîtes. C'est parce que chaque éditeur, effectivement, a peut-être, au bout de 20 ans, 25 ans, ce qui nous arrivera peut-être aussi un jour, je nous le souhaite quelque part. Enfin, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'on soit confronté au problème et qu'on le résolve. Donc, peut-être du mal à dire oui, mais ça, c'est pas très bien écrit. Mais qu'est-ce que c'est que bien écrit ? Enfin, je veux dire que le récit d'un griot, par exemple, africain, je comprends qu'il choque un éditeur traditionnel, mais il y a une ouverture sur le français d'Afrique, il y a une ouverture sur l'oralité, et il y a quelque chose de peut-être très intéressant, justement.
Alors ça, c'est donc les beaux livres, les grands noms, et la troisième, alors ?
Alors la troisième, il n'y a pas de choses précises à l'heure actuelle, enfin il y a plein d'idées, mais elles ne sont pas matérialisées, en tout cas à échéance visible. Je ne sais pas dire, par exemple, c'est pour novembre ou pour décembre. On a d'abord peut-être des collections littéraires, mais plus spécialisées, donc comme tout le monde, le roman noir, et peut-être le roman érotique. Et puis, au-delà de ça, très probablement, on va venir à une collection de documents. Une collection de documents sur des grands problèmes, des grands événements, des choses qui sont en prise de façon plus directe avec ce qui se passe dans la société. On gardera la même ligne d'ouverture, de diversité. Je veux dire, on n'a jamais demandé à un auteur ce qu'il pensait, quelle était sa croyance religieuse, pour qui il allait voter, etc. On s'en fiche complètement. Chacun amène sa richesse, sa personnalité. Voilà. Mais, en revanche... Je ne sais pas si vous pouvez suivre mon regard, mais quelqu'un qui ne serait pas dans une logique d'ouverture et de diversité, il n'aurait pas sa place parmi nous.
Très bien. Dominique Grezard, on souhaite en tout cas bon vent à cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle Le Bas Vénitien. Pour Le Bas Vénitien, le titre a une histoire, j'imagine.
Évidemment, il a une histoire. Je vais essayer d'être court. Un très grand cinéaste russe, Lev Kuleshov, qui est l'inventeur du montage cinématographique, en 1917, s'est trouvé, comme tous ses collègues, en panne de pellicule à cause du blocus occidental. Et il a continué à travailler et à faire des films sans pellicule. Qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, la caméra était là, les acteurs étaient devant, mais le public venait autour de la caméra. Et évidemment, ce n'était pas du théâtre parce qu'il y avait des noirs qui symbolisaient les changements de plan, il y avait des changements d'angle, d'axe, etc. Et tout simplement, Le Bas Vénitien, c'est le plus célèbre de ces films sans pellicule que personne ne reverra donc jamais. La question suivante, c'est peut-être pourquoi ?
C'est facile de faire de la radio avec vous parce que si je faisais les questions, les réponses. Non, la question suivante, ce sera sur Kuleshov. Voilà.
D'accord. Non, tout simplement, c'est une école d'abnégation, de détermination. On savait très bien, en lançant cette maison d'édition à une époque où il est dur d'être libraire ou éditeur, que ça allait être très dur. Tout le monde nous a dit, soit vous êtes fou, soit vous êtes passionné. À quoi répondait oui, les deux. Et voilà, j'aurais pu donner un autre nom à la maison d'édition, enfin nous aurions pu, hein, c'était collectif, qui aurait été Bernard Palissy.
Qui sont les autres, en deux mots, le comité éditorial, quelles sont les caractéristiques, les qualités des personnes que vous avez réunies dans le comité éditorial ou dans la coopérative ?
Alors, il y a 19 coopérateurs, dont 8 font partie du comité éditorial. Il y a également une assistante d'édition qui est également salariée. Les membres de la coopérative, et encore plus du comité éditorial, sont tous des gens qui sont réunis sur la folie de la littérature et une idée de la littérature. Encore une fois, pas forcément, on n'aime pas les mêmes choses, pas forcément. Il y a des débats parfois qui sont assez tendus dans le sens, ils sont pointus, voilà, je devrais dire plutôt pointu. Parce qu'en revanche, il y a toujours un très profond respect des opinions des autres lorsqu'ils discutent. Et pour l'instant, le comité est toujours arrivé à travailler en consensus. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins qui font l'unanimité, d'autres pas, mais où on arrive à se convaincre les uns les autres. Et en gros, qu'est-ce qui arrive à décider, qu'est-ce qui arrive à primer? C'est l'enthousiasme. C'est-à-dire que si il y a... on n'a jamais eu à, le comité n'a jamais eu à voter parce que ça ne s'est pas posé. Peut-être qu'un jour il faudra arriver à le faire. Il y a eu en revanche des reports. Bon, ben, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On va tous réfléchir pendant 3 semaines et puis on se retrouve dans 3 semaines. Voilà. Mais donc tous des fous de littérature et des gens qui avaient un rapport au livre souvent professionnellement. Pas toujours. On a des consultants, par exemple, dans le comité éditorial, mais des gens qui passent leur temps à lire dès qu'ils sont en dehors de leur métier de consultant. Et il y a des profs de lettres, il y a un bibliothécaire. Il y a eu à une époque une libraire qui a préféré choisir, qui trouvait que c'était pas compatible d'être libraire et éditeur, c'est son choix, on le respecte, etc. Voilà.
Dominique Grezin, on vous écouterait pendant des heures parce qu'on sent que l'enthousiasme n'est pas ce qui vous fait défaut. Dominique Grezin, je rappelle donc le nom de cette nouvelle maison d'édition, Le Bas Vénitien. Nous avons déjà fait l'interview de Maureen Pitts pour son magnifique roman Le Goût du Rat. Et les autres titres que vous avez publiés à ce jour sont L'histoire véridique de Mactar, écrit par Dominique Sarr, L'homme qui voulait marcher sur l'horizon, dont vous avez parlé, de Françoise Armengaud, Le mois le plus court de l'histoire calendaire de Nathan Boer et L'enfant voyageur de Calette Rumeau. On sait qu'à la rentrée de septembre, il y aura d'autres livres dans les rayonnages des librairies. Merci.